Moi, je prends le du Conseil occidental oriental. J'ai réfléchi totalement ce qui
se passe. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, en fait, en gras. Je pense qu'en combinant les deux, je vais de mes présidents trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez sur Radio Tapis, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine de débat citoyen. Dans un rapport publié en 2015, le PNUD évoque la possibilité pour la RDC d'atteindre l'émergence d'ici 2030. Avec un taux d'inflation en dessous de la barre de 1%, un climat d'affaires favorable avec la mise en place d'un guichet unique qui permet de créer une entreprise en 3 jours. Si la RDC maintient cette cap, l'émergence sera au rendez-vous plutôt que prévu, convient le média congolais et ses partenaires. Entre-temps, certains observateurs estiment que la RDC ne sera pas au rendez-vous, faute d'accomplir, entre autres préalables de l'émergence, un solide leadership politique démocratique, une large transparence dans la gestion de la chose publique, etc. etc. Qu'en pensez-vous? Participez à ce débat en direct au 081 890 6315 et rejoignez-nous aussi à l'adresse pa@radiocapi.net. Déposez également vos commentaires sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Merci à vous tous qui nous écoutez à l'étranger sur www.radiocapi.net. Merci aussi à Pierrot et la Belgique pour la réalisation de cette émission mixée par Hippolyte Kapanga, coordonnée et présentée par Gilles Lugébo sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, merci à vous tous qui nous avez envoyé vos messages sur notre page Facebook. Nous allons découvrir ces messages d'un moment à l'autre. Il est temps pour nous de dire d'abord bonjour à Steve Kivota, qui est économiste également, que nous recevons dans ce studio. Il est également cadre de Palo. Steve, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, au cours de cette émission, nous aurons un appel des États-Unis pour parler de, disons, ce que nous appelons le plan Marshall de Noël Chani, qui a également proposé, en fait, par les préalables pour sortir aujourd'hui le pays de la RDC, donc de la crise, ainsi avancer vers l'émergence tant attendue. Merci beaucoup à vous tous, donc, qui de donner de l'importance à cette émission. Alors, aussi, d'entrée des jeux, au regard d'abord des différents rapports économiques publiés par les experts internationaux sur l'évolution économique de la RDC, à comparer avec certaines opinions ici au pays, notamment la dernière tribune de Mouzitou. On se rend compte que ces rapports, les rapports sont contradictoires. Alors, peut-on dire que les observateurs qui ont émis des opinions positives par rapport à l'évolution économique sont dans l'erreur d'analyse ou des visions?
Premièrement, je remercie Gérald Ngembo et la Radio Okapi pour votre invitation. Avant de répondre à votre question, je pense qu'il faut d'abord commencer par éclaircir les concepts. Avant d'en arriver, parce qu'effectivement, vous aviez parlé des différents rapports qui parlent de l'émergence à l'horizon 2030 sans éclaircir la population sur le concept d'émergence. Qu'est-ce qu'ils entendent par émergence? Est-ce qu'il s'agit réellement de devenir, de passer d'un statut de pays sous-pauvre ou pays pauvre vers le statut de pays émergent que nous connaissons, Brésil, Chine, Inde, Afrique du Sud, où il s'agit d'une émergence que l'ancien Premier ministre Mouzitou appelle l'émergence sui generis, d'une situation A à une situation B, qui n'est pas nécessairement la situation de pays émergents ou de pays pauvres vers le pays émergent que nous connaissons. Donc avant d'expliquer les concepts d'émergence, il faut de comprendre d'abord le concept comme le PIB et les concepts de croissance. Je suis de l'université populaire, nous aimons toujours que la population nous comprenne. Le premier concept, c'est le concept PIB, qui est un des indicateurs macroéconomiques. La macroéconomie, qui sert effectivement, contrairement à la microéconomie, d'analyser la situation globale d'une économie, tandis que dans la microéconomie, on s'intéresse plus à analyser le fonctionnement de ménages, de firmes, etc. Donc dans la situation, dans l'analyse macroéconomique, on analyse l'évolution de certaines grandeurs, de certains indicateurs, entre autres le PIB. Le PIB, c'est quoi ? Le PIB, c'est l'ensemble, disons-le simplement, c'est l'ensemble de production d'un pays, l'ensemble du revenu national d'un pays à une année donnée. Et ce PIB comprend quoi ? Comprend la production de nationaux ainsi que la production des étrangers produisant dans votre frontière nationale. Et ce PIB peut croître d'une année à une autre, peut progresser d'une année à une autre. Et cette progression, très souvent estimée en pourcentage, c'est ce qu'on appelle la croissance. Elle peut être de 6,5%, elle peut être de 2%, elle peut être de 10%, comme on le dit parfois dans notre pays. Et quand ça atteint 10%, on dit ça atteint le dessus. Donc, quand maintenant on parle de l'émergence, eh bien, c'est effectivement un pays dont le PIB est en train d'atteindre une certaine croissance pour atteindre les niveaux de PIB de pays que l'on dit émergents. Et aujourd'hui, le pays que l'on dit émergent, leur PIB par habitant est estimé à combien ? C'est ça, en fait, l'analyse en termes de pays émergents. Aujourd'hui, le pays émergent, si l'on s'en tient à ce que dit l'ancien Premier ministre Mouzito, et ce sont des chiffres vérifiables, le Brésil, par exemple, est à 11 690 dollars par habitant.
Ça, c'est le Brésil.
Ça, c'est le Brésil, le pays émergent. La Russie est à 13 860 dollars par habitant par an. Et si l'on prend par jour, le Brésil, chaque Brésilien dépense ou a un revenu de 32 dollars chaque jour. Et la RDC, prenons le chiffre de la RDC. La RDC a un PIB en 2016, de 40 000 dollars, la RDC. Et si l'on divise par les 80 millions d'habitants, la RDC a un PIB par an, par habitant, de 500 dollars. Divisé par 365 jours, la RDC a un PIB par habitant chaque jour de 1,4 dollars. C'est même moins que la plupart de pays pauvres, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, etc. Le Sénégal, comme étant pays pauvre, déterminé ainsi, a un PIB par habitant chaque jour de 3,5 dollars par habitant.
Et c'est là un impact sur la croissance.
C'est là, non, c'est plutôt la croissance qui a un mauvais impact, parce que la croissance dépend d'un modèle économique. C'est ce que nous devons développer. Est-ce que l'on peut atteindre l'émergence, c'est-à-dire maintenir, comme le dit l'ancien Premier ministre, un taux de croissance de 10% pour pouvoir rêver de passer d'un pays sous-pauvre à un pays pauvre à l'horizon 2030, est-ce qu'on peut l'atteindre avec le modèle économique qui est basé sur le mine ? Un modèle économique avec les routes nationales qui sont estimées à 58 000 km, dont la modernisation n'est faite qu'à l'entour de 5%. Est-ce qu'on peut atteindre l'émergence avec un pays non industrialisé comme le nôtre à l'horizon 2030 avec un taux de desserte en électricité de 9% seulement ? Est-ce qu'on peut atteindre l'émergence avec une bancarisation de l'économie très faible, alors autant plus ou moins de 2% à 4%? Donc, nous devons repenser, faire de réformes, élaborer de nouvelles politiques publiques, mobiliser suffisamment de ressources, entre autres, parlons du plan Marshall. L'ancien Premier ministre Mouzito lui a parlé dans sa 4e tribune de la RDC, état sous-endetté, esprit de pauvreté d'émergence. Nous devons mobiliser suffisamment de ressources auprès de nos partenaires, FMI et Banque mondiale, partenaires multilatéraux ou bilatéraux, la BAD, et bien le partenaire chinois. Donc, aujourd'hui, effectivement, pour répondre maintenant à votre question, on se pose la question, comme on s'est posé cette question pour le chômage.
C'est une erreur d'analyse.
On a eu à se poser cette question à trois reprises. Premièrement, c'était sur le budget des 48 milliards à mobiliser dans 5 ans. Aujourd'hui, on arrive à la fin de 5 ans. Le budget élaboré n'a même pas atteint la moitié de budget tel que le Premier ministre l'avait voulu quand il prenait son investiture. Et on a mobilisé à l'auteur de 70%. Deuxièmement, si je dois terminer, le chômage, on a dit qu'on a inversé la courbe du chômage, nous on a démontré que c'est faux. Et troisièmement, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il y a une mauvaise analyse de questions économiques par le gouvernement. Et je ne sais pas s'il est trompé de la même façon.
Hein?
Il y a effectivement un esprit de propagande tout simplement.
Voilà. Alors, disons, le CNUD partage pratiquement le même point de vue avec la RDC, qui parle de l'émergence de la RDC, qui sera au rendez-vous donc de l'émergence, plutôt que prévu, si jamais ils maintenaient les cartes aujourd'hui. Mais là, à encore vos propos, on se rend compte que. Il y a encore des préalables, entre autres, un solide leadership politique, démocratique et une large transparence. Alors, c'est vrai, ça fait bien. Nous avons souhaité également le plan Marshall de Noël Chani et tant d'autres. Mais on se rend compte que tous reviennent sur le leadership politique. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un préalable majeur?
C'est un préalable majeur, mais pour parler un peu du CNUD, en fait, il y a deux grands critères aujourd'hui pour déterminer l'émergence. Il y a le critère quantitatif dont on a parlé, le PIB, et par le PIB, on voit la croissance aussi. Mais il y a le critère qualitatif, dont le CNUD s'intéresse un peu plus, c'est-à-dire la qualité du PIB, la qualité de la croissance. Est-ce que le PIB ou la croissance, ça permet assez qu'on améliore l'éducation, qu'on améliore l'instruction, qu'on améliore la santé, qu'on améliore les taux de natalité, les taux de mortalité,
le vécu quotidien,
le vécu quotidien, la qualité de vie de la population, c'est ce qu'on appelle l'indice de développement humain, l'UDH, et la RDC est aujourd'hui, parce que l'IDH est estimé à de 0 à 1, la RDC est à 0,333. Donc on est en dessous, effectivement, du seuil moyen en termes de l'IDH. Donc ce sont ces deux critères. Peut-être que le CNUD est en train de s'exercer un peu plus sur la qualité du pays.
Voilà, alors je crois qu'on va ouvrir les standards pour recevoir, accueillir les auditeurs qui ont souhaité, en tout cas, émis les vœux de pouvoir participer à cette émission, mettre son ville. Olivier et Alidor à Kananga, 081-890-6315.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse email est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Voilà, Maître Conville, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Maître Conville.
Bonjour, Monsieur Pierre. Bonjour à notre visiteur. Bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
Alors, Maître Conville, c'est vrai, vous venez d'écouter notre invité tout à l'heure, et c'est le point de vue qui est partagé, en fait, par certains observateurs qui expliquent que la RDC ne sera pas au rendez-vous faute d'accomplir, entre autres préalables de l'émergence, un solide leadership politique démocratique ou également une large transparence dans la gestion de la chose publique. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, tout à fait, M. Gire, je suis venu avec une attention qui connaît une autre idée. La manière dont il a parlé du PIB, bon, il y a quelque chose là, c'est quelque part là où ça cloche un peu. Quand vous avez évoqué le problème de leadership politique, tout ce que M. Gire, c'est vrai, avec la volonté politique, la RDC peut atteindre l'état d'émergence en 2030. Mais il y a beaucoup de préalables qui se posent. Tout ce que vous savez aujourd'hui, par la démocratie, comme l'a souligné le pays, le monde, par la démocratie, par le respect de la Constitution, sans restaurer un pays de droit, on ne peut jamais s'attendre à cette émergence en 2030, puisque beaucoup est à faire. Pourquoi je dis ça, monsieur, nous avons suivi avec vous le gouvernement qui a décidé la réforme, la réhabilitation du code minier. Or, le Congo, c'est un pays à vocation minière, tout comme à vocation industrielle. Or, ce qui peut beaucoup rapporter au niveau du gouvernement, c'est la réhabilitation du code minier. Le gouvernement vient de remettre en cause cette réhabilitation, on ne sait pas, avec ce code minier peut nous mener à l'état d'urgence en 2020. Hormis cela, monsieur Gilles, nous avons le problème de l'électricité. Oui, nous parlons de l'industrialisation et de l'électricité. Au Congo, on n'a pas des entreprises, des sociétés manufacturières, jusqu'à faire du contraire. On ne vend plus rien au Congo. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'état de maison en 2030? Je ne crois pas. Il y a le problème d'agriculture, M. Pierre, M. Gilles. Il n'y a pas une semaine, que les quatre endroits aient été secoués, toutes les surprises, comment les hauts quatre endroits, jusqu'à Zambie, ont voulu former ce cimetière pour empêcher l'exportation de la farine de maïs.
Mmh.
Et à ce niveau-là, l'agriculture qui faisait partie des cinq chantiers du chef de l'État n'est pas au rendez-vous. Est-ce que c'est de cette manière que nous avons mis à part le port d'émergence? Je ne suis pas. Il y a beaucoup d'efforts à fournir, sans un état de droit. Or, lorsqu'il existe encore l'insécurité au niveau du Congo, lorsque les investisseurs ne sont pas sécurisés, moi je ne suis pas qu'il y aura un état de l'urgence en 2030. Il y a beaucoup à faire. Cela dépend du sacrifice. Cela dépend de l'alternance au pouvoir. C'est pourquoi nous existons à ce moment, sur le respect de la Constitution, puisque tous si on respecte cette Constitution, nous pouvons attendre un état d'émergence. Mais lorsqu'on veut prendre le pouvoir par défi et diriger ceci, sans pour autant répondre aux attentes de la population, moi je suis que non. Je suis là avec une attention soutenue, parce qu'il dit, il a dit qu'un Congolais dû par moi, parce qu'il est arrivé avec moins de 1 dollar. Est-ce qu'en 2030, on atteindra peut-être l'effort de 10 dollars par jour? Moi, je n'estime pas. Mais si nous avons déjà des bons gouvernants et qui assument la bonne gouvernance, nous pouvons nous y attendre.
Merci. Merci beaucoup.
Nous pouvons rien attendre lorsqu'on est en train de dévoiler la position.
Merci beaucoup, Maître Tonville. Maître Tonville, merci. Alors, si nous lisons également le plan Marshall de Noël Chani, on se rend compte que ce que vous venez de dire sur la démocratie, et cela a été révélé d'ailleurs dans la tribune, la 11e tribune, qui en fait fait mention également de la 4e tribune de la DOP Nozitu. Noël Chani dit ceci: la corruption est endémique et même banalisé dans tous les sphères de la vie nationale. Tant Transparency International classe la RDC parmi le pays le plus corrompu de la planète, et le panel des experts africains dirigé par Thabo Mbeki estime que 85% des ressources naturelles de la RDC n'entrent pas dans le budget national. Donc c'est difficile aujourd'hui d'avoir un PIB qui pourrait répondre effectivement à donner solution à la question sur l'émergence de la RDC d'ici 2030. Merci beaucoup, Maître Sonvi, d'avoir appelé de Lumbashi. Olivier, vous êtes à Kipuite. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Pensez-vous, comme les autres, qu'un solide leadership politique démocratique ou encore une large transparence dans la gestion de la chose publique pourrait amener la RDC à l'émergence d'ici 2030?
Oui, JR, voilà, merci. Je pense que 2030, c'est trop tôt. C'est-à-dire que c'est vrai que l'émergence, ce n'est pas une chose impossible, mais nous sommes loin de l'émergence avec notre façon d'agir. Lénine disait ceci, JR, la vérité est toujours concrète. Et il ajoutait, la politique aussi, pour le citoyen, doit se traduire par des choses concrètes.
Mm-hmm.
Or, je suis d'accord avec moi que notre politique, ce sont des slogans. Nous voulons faire l'économie sans respecter les principes de l'économie. Nous faisons la politique sans respecter les principes d'une bonne politique. Alors, automatiquement, nous sommes à côté de la ligne. Alors, j'ai l'impression que nous fonctionnons avec les partenaires extérieurs juste pour une certaine publicité. Donc, ce n'est pas pour que les citoyens se retrouvent dans les choses concrètes. Alors, lorsque nous voulons faire plaisir à l'extérieur, automatiquement, là aussi, nous éloignons de plus en plus de l'émergence. On ne voit pas les objectifs. Alors, je prends des exemples concrets. Nous voulons l'émergence, mais entre-temps, nous sommes en train de former des personnes qui, demain, ne seront pas compétitives. Je veux vous dire que notre enseignement actuellement est très loin d'être compétitif. Et les fruits que nous produisons, JR, aujourd'hui, à 90%, sont des fruits non compétitifs. Ça signifie que d'ici 15 ans, nous risquons d'importer même les enseignants dans presque tous les domaines. Ça, c'est un problème. Alors, deuxième chose, nous avons des préalables comme les routes, les infrastructures, il n'y en a pas. Moi, je suis dans le Kivu. Eh bien, pour quitter Kivu, il n'y a que la route de Kinshasa qui est une route, pardon. Quand vous allez dans les localités environnantes, eh bien, c'est une catastrophe. Même pour aller à 150 km avec une 4x4, vous devez réfléchir 4000 fois. Alors, je me demande comment on va faire l'émergence. Nous avons le secteur des mines. Tous les jours, on nous dit que la production minière a augmenté. Mais en même temps, on ajoute qu'on ne voit pas l'impact sur les finances publiques. Alors, ce n'est pas normal. La production augmente, mais il n'y a aucun impact sur les finances publiques. Ça signifie que le trésor ne bénéficie pas de cette augmentation de la production. Alors, où va la production? Et nous voulons l'émergence. Nous avons la politique. La politique, c'est ça qui gère tout. Nous sommes en train de discuter sur les problèmes d'alternance. Or, vous savez que le climat politique, c'est parmi les choses qui conditionnent l'éventualité de l'émergence. Nous avons la sécurité JR. Et là, je dois dire que nous sommes parmi les pays où il y a la sécurité, mais tout le monde est content de parler d'une situation paisible. On peut parler de paix dans un pays où les gens meurent chaque minute. Alors, l'émergence viendra comment? Dans l'acte de sécurité ou bien dans la pauvreté ou, alors, je ne sais pas, quelle définition nous donnons à ces mots-là? Parce que si le PNUD entre dans le jeu du gouvernement, ça devient très dangereux. Et là, j'aimerais que tout le monde, les spécialistes du domaine, j'aimerais que tout le monde puisse mettre d'accord pour définir d'abord des choses. Sinon, notre émergence sera différente de celle de la Corée du Sud ou de celle des autres pays dont nous sommes en train de parler. Donc, je crois que nous avons un problème. Il y a nos hommes politiques.
Olivier, je vous propose d'ailleurs le 8 piliers de Noël Chani. Qui parle de moment au point 6, le 6e pilier, si ma mémoire est très bonne, favoriser et accélérer l'industrialisation du pays par la transformation locale des minéraux, la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, la mise en valeur planifiée et coordonnée des forêts et l'éclosion du secteur tertiaire, y inclut le tourisme. Alors, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça?
Oui, justement, parce que, effectivement, moi, je pense que nous ne devons pas inventer la roue, hein. Vous savez, l'Union européenne s'est développée, c'était d'abord par le principe de l'autosuffisance alimentaire. C'était ça le point de départ. Et si vous lisez l'histoire de l'Union européenne, le premier point à développer, c'était l'autosuffisance alimentaire. Mais nous sommes loin de cela, et ce n'est même pas dans nos objectifs. Alors, tant que nous allons passer à côté de cela, eh bien, vous comprendrez que le monde affamé ne peut rien faire.
Alors, Olivier, Adolf Mouzitou, Premier ministre honoraire, parle d'une période de transition, une période transitoire. Donc, on ne peut pas quitter de la pauvreté actuelle directement à l'émergence. Est-ce que vous partagez cet avis? Il faut une période de transition.
Moi, je pense qu'il a pas seulement raison, et dans une autre de ses documents, il a parlé de pays sans budget. Alors, vous comprenez que avec toutes ces maladies-là, il est impossible qu'on puisse évoluer sur une voie du progrès. C'est impossible. Donc, nous sommes vraiment en train de vouloir faire des choses, mais en allant en sens inverse. Et on s'est évolué.
Merci beaucoup, voilà. Olivier. Anidor, vous êtes à Kadanga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Olivier. Anidor.
Merci beaucoup, Salidor Mokendi à Kananga, Café Central, c'est Kanda Mopompa. Merci beaucoup, chers collègues journalistes. Nous sommes vraiment atteints avec les programmes de notre pays ici. À chaque ministre qui vient, à chaque programme de notre pays, il n'y a pas le suivi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, où il y a la démocratie, il y a le développement d'un pays. Comme mes collègues viennent de parler là, nous sommes dans une passe où on n'est même pas arrivé encore à 2030 de développer notre pays. Il y a des 15 millions qui passent chaque jour ici dans la porte des gens. Mais comment aujourd'hui on veut faire une cliché unique pour développer notre pays? Nous avons dans un pays où il y a beaucoup de richesses. Mais quand nous parlons avec vous ici, il y a beaucoup de chômeurs. Chez nous ici à Kananga, moi je suis jeune, je suis à l'âge de 30 ans, je suis chômeur. Mais tout ça, on le dit, on fait l'engagement. Mais si je dis, c'est le terrain immense, c'est vide. Monsieur le journaliste, on a signé le pacte, on a signé le développement, nous ne voyons rien. Ce que nous demandons, c'est quoi notre gouvernement? Déjà, il nous suivit sur le terrain.
Merci, merci beaucoup, Anidor, de revenir en vous, Steve, avant de partir vite aux États-Unis. Voilà, il y a Noël qui nous a rejoint également. Alors, professeur Noël Chani, vous êtes aux États-Unis, vous êtes avec nous? Voilà, on a professeur Chani.
Oui.
Voilà, vous êtes avec nous en ligne. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission. S'il faut compter les décalages horaires, hein, voilà, donc on vous a arraché quand même de votre lit en ce moment.
Ok, très bien. Il est actuellement pratiquement 6h27 du matin, donc je vous attends.
Voilà. Alors, nous avons lu votre plan, Marshall, proposé pour la RDC d'ici 15 ans. Là, il y a 8 piliers, notamment investir dans les ressources humaines en mettant l'accent sur l'éducation, la santé et l'autosuffisance alimentaire. Et puis 2, promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie. 3, donc, promouvoir l'émergence de la finance nationale. 4, promouvoir l'émergence d'un secteur privé national responsable. 5, favoriser la réalisation des grands travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre. Et 6, favoriser et accélérer l'industrialisation du pays par la transformation locale des minerais, la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. 7, créer des synergies entre le marché intérieur et l'intégration régionale. 8, mobiliser les ressources humaines et financières pour mettre à l'œuvre les différents piliers du plan. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si jamais on respectait ces chapelets d'intentions, comme pour dire, de bonnes intentions, on pourrait atteindre l'émergence en 2030 ou encore d'ici 15 ans?
Oui, je vous remercie d'abord de me donner l'opportunité de m'adresser à vos auditeurs. Je voudrais d'abord préciser qu'en tant que fonctionnaire international, j'interviens dans cette émission donc à titre tout à fait personnel. Donc, ce que je dis ne m'engage que moi-même et n'engage pas mon employeur, donc la Banque mondiale actuellement. Cela étant dit, je dirais que le plan de développement que j'ai développé, qu'on appelle donc le plan Marshall pour la RDC, tient compte de la situation actuelle du pays. Le diagnostic que j'ai conduit montre ceci, montre que la RDC est classée aujourd'hui donc dernier d'après l'indice du développement humain du PNUD. Ça veut dire que nous sommes le pays le moins développé de la planète. Et nous avons aujourd'hui donc le produit intérieur, le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant le plus bas de la planète. C'est-à-dire que nos gens, à nous, les Congolais, vivent moins que, vivent très mal par rapport donc aux autres populations, donc d'autres pays. Avec toutes les ressources naturelles que nous avons, nous devons être en mesure de faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, le diagnostic que j'ai mené montre que le Congo a un problème donc de préalable au développement auquel il faudrait qu'on puisse satisfaire avant qu'on puisse donc prétendre réaliser donc l'émergence dans 15 ans, comme le dit le rapport donc du PNUD. Alors, quels sont ces préalables au développement? Je dirais d'abord que nous avons donc les questions donc de paix et de sécurité. Aucun pays ne peut réussir dans l'environnement actuellement que la République démocratique du Congo est en train donc de traverser. Nous avons donc des guerres à répétition, des citoyens congolais qui sont assassinés à gauche, à droite, le manque de liberté donc individuelle et consorts. Donc on estime qu'il faudrait qu'on puisse donc améliorer donc l'environnement sécuritaire du pays avant que nous puissions prétendre avoir une véritable vision de développement que nous pouvons réaliser. Au-delà donc de ces questions sécuritaires, nous avons les questions de leadership. Nous devons reconnaître que le Congo, depuis 2011, a un problème de légitimité du pouvoir. Donc nous devons régler ce problème donc dans le cadre des élections démocratiques transparentes organisées donc dans les délais constitutionnels pour que le pays puisse avoir un leadership politique acceptable à tout le monde, donc de déterminer de façon donc démocratique. Au-delà donc de ça, nous avons donc d'autres préalables au développement, des questions de gouvernance. Lorsque les organisations internationales, les ONG internationales telles que Transparency International estiment que 85% des ressources naturelles de la RDC n'entrent pas dans les caisses de l'État, c'est une accusation très grave. On estime que plus de ressources qui sont dégagées donc dans le pays ne sont pas utilisées pour le développement du pays, mais plutôt vont dans les poches des particuliers. Il faudrait que le Congo puisse prendre conscience de cela et régler ce problème de gouvernance avant que nous puissions donc prétendre avoir un budget national qui puisse ramasser toutes les ressources financières possibles et les orienter donc vers les programmes d'entreprise.
Voilà. Alors, professeur,
on a donc des questions.
Oui, allez-y, professeur.
Ok, au-delà donc de ces questions de gouvernance, donc il y a d'autres questions de préalable au développement, telles que la qualité de l'enseignement, telles que les questions d'infrastructure donc de base. Comment voulez-vous que nous puissions donc développer le pays si on n'a pas donc des infrastructures de base telles que les routes qui puissent relier tout l'intérieur du pays, telles que les systèmes donc d'électricité où l'électricité pourrait être disponible donc à tout le monde dans le pays, où nous n'avons pas donc les systèmes de distribution d'eau pour amener donc l'eau partout donc
à
la population congolaise. Donc, nous avons ces questions donc de gap infrastructurel auxquelles il faudrait donc qu'on puisse trouver donc des réponses. On a la question de l'environnement des affaires, manque de démocratie. Nous avons donc la question donc de manque même d'institutions, manque d'état de droit. Donc c'est préalable au développement. Si nous arrivons à les affronter avec responsabilité, je pense qu'il est possible que les ressources naturelles de la RDC puissent être utilisées de façon efficiente pour que nous puissions nous orienter donc à atteindre donc l'émergence donc à l'horizon de 15 ans ou un peu plus loin que ça. Mais nous pouvons donc déjà mettre le pays donc sur la voie de développement économique et social soutenable et durable.
Alors merci beaucoup. Nous vous gardons à l'idée, M. Noël.
Chani et vous êtes aux États-Unis. Alors, Steve, vous venez de suivre Noël Chani depuis les États-Unis. Est-ce que, avec aujourd'hui la tribune de l'ancien Premier ministre, le ministre honoraire, Mobutu, qui parle également de l'émergence qui passe par, en fait, des conditions. Il y a des conditions qui peuvent varier d'un contexte historique à un autre, mais il y a également des traits communs, notamment la gouvernance, comme vient de le dire Noël, gouvernance politique et économique. Alors, au-delà de cela, nous avons insisté au début de notre émission sur le solide leadership et aussi la bonne gouvernance. Est-ce que vous sentez comme il y a un trait aujourd'hui sur les analyses développées par d'autres observateurs par rapport à ce qu'elle dit aujourd'hui à leur visite?
Bien sûr que oui. En bref, on peut dire qu'il y a du préalable politico-sécuritaire, entre autres le solide leadership. On parle de la stabilité des institutions, y compris le respect de l'alternance démocratique, parce que la politique et l'économie ont de liens. Avec une politique instable, on ne peut que créer une mauvaise économie, et avec une mauvaise économie, on ne peut que créer une mauvaise politique. Donc, l'ancien Premier ministre Mobutu en parle sur le plan politique, mais surtout sur le plan économique. Pourquoi ? Parce que nous, on s'arrête un peu, non pas de rester dans la littérature, on aimerait un peu plus expliquer que l'émergence, c'est d'abord une analyse quantitative qui doit être faite sur la progression du PIB. Et l'ancien Premier ministre Mobutu est en train de tirer la sonnette d'alarme en disant que, en réalité, en 2030, faisons attention, ne vendons pas les vents au peuple. Parce que quand il fait ses calculs, il rappelle que nous avons aujourd'hui un taux de croissance démographique de 3,5%. Donc quand on est en train de faire une croissance sur le plan économique, nous devons tenir compte aussi de la croissance démographique. Donc avec le minimum de 10% de taux de croissance, avec le taux de croissance économique du PIB, et avec le 3,5%, lorsqu'il fait les calculs, lorsque nous faisons tous les calculs, nous allons voir qu'en 2030, on ne pourra avoir que 1 300 $, même si on luttait contre la corruption, mais quoi que l'on puisse faire, c'est la transition.
Est-ce que qu'il s'agisse du plan Marshall ou encore des tribunes, est-ce que tout cela ne repose pas sur des théories? Parce que quand on est en pratique, c'est autre chose. La réalité du Congo, c'est pratiquement autre chose. Nous avons vu des premiers ministres défiler à la tête du gouvernement, de différents gouvernements congolais. Mais en réalité, sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des pesanteurs politiques. Il y a des pesanteurs, notamment, comme vous l'avez dit, sécuritaires et tant d'autres.
Oui, il y a des pesanteurs politiques, mais il y a des réalités aussi économiques. Aujourd'hui, le grand problème, en dehors de la politique, il y a des problèmes économiques. J'ai entendu beaucoup de gens le dire. Aujourd'hui, nous avons une économie non intégrée, non unifiée. Nous n'avons pas une économie nationale. C'est ainsi que l'ancien Premier ministre parle de la nécessité de construire des routes nationales, des routes interprovinciales, des routes intraprovinciales. 58 000 km de routes. Aujourd'hui, on n'a que 5% de routes qui sont modernisées. On parle de la nécessité encore de mobiliser ces ressources.
Donc, c'est impossible d'en construire une centaine ou encore des milliers d'ici 2015.
L'ancien Premier ministre Mobutu a évalué ses moyens à 100 milliards de dollars dans sa 4e tribune. La RDC État sous-endetté, esprit des pauvretés d'émergence. On pouvait en mobiliser 20 milliards, mais la condition était que l'on soit en programme avec le FMI et la Banque mondiale. Malheureusement, encore une fois, là, de plus, le gouvernement n'est plus en programme avec le FMI et la Banque mondiale. Donc c'est aussi une des conditions, un des préalables pour atteindre l'émergence. On ne peut pas prétendre à l'émergence pendant qu'on n'est pas en programme avec les institutions de votre monde. Il y a une autre nécessité, l'industrialisation de notre économie. Or, nous ne pouvons jamais, ça les gens doivent le savoir, on ne peut pas faire croître le PIB pendant que notre pays n'est pas industrialisé. Et on ne peut pas industrialiser notre économie sans une desserte en électricité assez accessible. Aujourd'hui, nous sommes à 9% en matière de desserte en électricité et à 7% en matière d'eau potable. Donc, il y a cela qui peut permettre, ne plus qu'à ce que l'on puisse avoir un taux de croissance de 10% pour nous permettre de passer du statut de pays sous pauvre pour émerger vers un pays, un statut d'un pays pauvre.
Alors, en 2030. Le débat est ouvert avec vous, Bénard. Vous êtes à Kinshasa, Nassor à Kindou. Bénard, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gérard.
Vous avez la parole, Bénard. Est-ce que vous êtes d'avis qu'aujourd'hui, l'émergence de la RDC passera par deux choses, notamment le leadership politique démocratique et une large transparence dans la gestion de la chose publique?
Exactement. Ben, je me sens quelque peu vidé par le propos du professeur des États-Unis et l'invité que je salue bien, Steve, qui est un enseignant de notre université populaire. Mais je peux quand même rappeler quelque chose, que le but de toute nation est d'accéder à un développement intégral qui permet à chacun de ses citoyens de vivre une vie qui a de valeur et une vie vivable, si je peux bien dire. Et le constat, malheureusement, est ici, il semble que tous les pays pauvres ont un objectif qu'ils ont fixé, c'est-à-dire être en convergence avec les pays riches ou émergents. Or, c'est cette convergence recherchée qui est la longue durée. C'est ainsi qu'on parle de l'émergence d'une dizaine d'années, voire de centaines, parce que les trajectoires et les perspectives de tous ces pays en développement ne sont pas les mêmes. Mais quand cela ne tienne, il faut rappeler qu'après beaucoup de littérature sur les taux de croissance et le cadrage macroéconomique, il est temps pour nous et les dirigeants congolais d'identifier le défi qu'on a contourné depuis longtemps. Il s'agit vraiment, comme tout le monde dit, de la bonne gouvernance. Donc on ne peut pas développer un pays avec des simples calculs optimistes ou qu'il faut bober au peuple et puis avoir trop de comparatifs des autres pays émergents. On va vous parler
Nous venons de le dire tout à l'heure avec Steve et également Noël qui est aux États-Unis, l'a également évoqué. Aujourd'hui, avec des pesanteurs politiques, vous pensez que c'est vraiment facile de pouvoir concilier la théorie et la pratique quand on est quand on gère la chose publique?
Non, c'est très difficile. C'est pourquoi je parle de concret ou tangible de bonne gestion des richesses du pays. Parce que le calcul optimiste qu'on est en train de faire ou les comparaisons avec d'autres pays ne feront rien s'il faut réellement, on n'a pas infini la récréation vraie, une ouverture de porte de la prison pour les ministres, les ADG, les DG et les généraux au cœur du détournement. Donc, je dis que le pays ne peut pas toujours se faire une comparaison sans d'abord voir à l'interne les défauts qu'il faut un peu laver pour atteindre ça. Donc, je ne suis pas vraiment sûr, parce que voyez l'état actuel de la RDC, voyez la guerre des sièges qui tourne autour des élections, de gouverneurs et consorts. Vous voyez que nous avons des gens qui sont prêts à réfléchir pour nous amener à cette émergence avec cette guerre des sièges et les désordres que vous voyez. Donc, en conclusion, si nos dirigeants souhaitent sincèrement avancer vers l'émergence, nous devons quand même comprendre aux conditions actuelles, la RDC ne peut pas accéder à cette émergence s'il n'y a pas de changement au niveau de la gouvernance.
Merci beaucoup, Bénard. Nassor, vous êtes à Kindou. Bonjour, Nassor.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. On dit en français, on construit une maison quand il va en casser. Que cela veut dire? Rien ne se fait sans un plan. Dans la RDC, il n'y a que le plan pour arriver à cette émergence que nous sommes en train d'écouter. Nous constatons tout ça comme les paroles illusoires. Comment un pays qui manque encore de contrôle dans les provinces, donc nous sommes dans un état qui ne respecte pas les droits de certains domaines, où est-ce qu'on peut encore voir un pays qui manque le financement pour l'organisation du football? Donc pour nous, c'est un rêve qui ne sera pas réalisé. Mais monsieur le journaliste, si on voit comment la vie d'équipe est pilotée, où les autorités n'aiment pas les opinions du peuple, une fois réclamé, tu seras arrêté et poursuivi. On ne sait pas, nous sommes dans quelle sorte de pays. Nous attendons que force d'impatience, un pays, la RDC, qui donne les mandats de plus.
Merci beaucoup, Nassor. Merci beaucoup, Nassor. Alors, Noël, Chani, vous êtes encore avec nous en ligne?
Oui, je suis toujours en ligne.
Alors, vous venez de suivre tout à l'heure Nassor qui parle d'un rêve qui ne sera pas réalisé. Mais en lisant votre plan, vous avez proposé une stratégie. La stratégie qui reposera sur les secteurs privés comme principal moteur de la croissance et qui sera fondée sur le libéralisme à visage humain, avec une dose raisonnable de l'interventionnisme étatique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire?
Oui, ben, ce que je veux dire par là, c'est que si le Congo fait des choses comme il se doit, en prenant compte donc de la situation réelle et en confrontant donc les problèmes réels auxquels le pays fait face, nous pouvons espérer donc aller de l'avant. On ne peut pas donc d'une part donc parler de l'émergence, mais faire sur le terrain donc des choses qui sont contraires à ce que le pays devrait faire pour arriver donc à cette émergence. Je vais donner quelques exemples. Si on ne peut pas aujourd'hui organiser donc des élections, organiser donc l'alternance de façon démocratique, on crée des conditions d'insécurité, d'instabilité dans le pays. Avec ça, on ne peut pas espérer arriver à l'émergence, même si le pays est doté donc des ressources naturelles énormes. On ne peut pas espérer aujourd'hui attirer des investissements pour mettre en valeur les grandes richesses dont dispose le pays, notamment en faisant l'industrialisation accélérée, donc ce qui est l'un des piliers donc du plan Marshall tel que je propose. On ne peut pas le faire si on n'arrive pas donc à améliorer l'environnement des affaires. Or, l'environnement des affaires est lié aussi donc aux questions sécuritaires et lié à la stabilité du pays, la stabilité des institutions. Donc, ces choses doivent être intégrées dans une vision globale de développement donc du pays qui tiennent compte donc des préalables qu'il faudrait que nous puissions sur lesquels nous devons travailler en tant que pays avant que nous puissions donc espérer donc mettre ce pays sur la voie de développement économique et social donc soutenable et durable. Alors, en ce qui concerne donc le libéralisme dont je parle, auquel je fais allusion, je dis simplement que les richesses naturelles donc du pays peuvent être mises en valeur non pas simplement avec les ressources publiques, mais également en attirant des investissements privés, des investissements nationaux, mais également des investissements étrangers. Mais ces choses ne peuvent pas se faire dans un État qui ne respecte pas l'État du droit.
Alors vous êtes
dans un pays qui ne respecte pas les principes de la démocratie, là où il n'y a pas d'institutions, là où il n'y a pas de leadership politique acceptable, consensuel, là où il n'y a pas donc des investissements massifs dans les infrastructures, là où on ne peut pas mobiliser donc les ressources naturelles qui entrent dans le budget national et que le budget qui puisse être alloué de façon transparente et crédible. Je donne un exemple. Nous avons un budget qui prétend que depuis 2011, chaque année, on alloue 200 millions de dollars à l'organisation des élections. Comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent pour arriver à organiser des élections? Donc ça veut dire que nous disons une chose d'un côté, mais de l'autre côté on fait le contraire de ce que nous disons. Et si cela donc est le cas, le pays ne peut pas donc
évoluer. Alors Noël, c'est vrai, en disant la tribune, la 11e tribune de Mobutu, on se rend compte que par rapport aux analyses faites, il est dit quelque part qu'avec un taux de croissance de 10%, en fait, les habitants, en 2015, hein, les habitants des pays en voie d'émergence ont une moyenne de PIB de 9 à 35 dollars, tandis qu'en 2030, la RDC n'atteindra que 1300 dollars par habitant par an, soit un PIB de 3,50 dollars par jour par Congolais. Donc, comme pour dit, l'émergence est une utopie.
Bon, je ne voudrais pas utiliser cette tribune-là comme une référence. Donc, j'ai développé un plan Marshall, un plan de développement de la RDC, dont le raisonnement est le suivant. Les taux de croissance que nous avons aujourd'hui ne sont pas suffisants pour arriver à réduire considérablement ou éliminer la pauvreté. Nous sommes en train donc d'entretenir une situation où les Congolais ne vivent pas bien. Alors, si le Congo est capable de réaliser donc des taux de croissance beaucoup plus élevés que ceux que nous avons aujourd'hui, et surtout des taux de croissance qui puissent être beaucoup plus élevés que les taux donc de croissance de la population, pour que nous puissions donc réduire considérablement donc la pauvreté. Alors, pour le faire, il y a des préalables, comme je l'ai dit, au développement. Et ces préalables tiennent, je vais résumer donc en trois choses. La gouvernance, la stabilité politique, la sécurité, les institutions, le respect des lois et de la constitution. Si on ne peut pas respecter donc la constitution du pays, organiser donc les élections donc dans les délais, nous perdons donc notre temps parce que ces conditions-là vont créer l'instabilité et l'instabilité ne peut pas nous permettre de nous concentrer sur les questions donc de développement du pays. Donc nous devons faire les choses donc en ordre. Ce qui vient avant, c'est la mise en place donc, d'institutions crédibles, ce qui est un leadership donc, acceptable donc, à tous les Congolais. Et ce leadership soit à mesure de pouvoir mobiliser tous les Congolais pour pouvoir les mettre donc, dans une voie où on s'approprie donc, d'une stratégie de développement et on met cette stratégie de développement donc, en œuvre. Si on ne peut pas le faire, les taux de croissance que nous générons ne signifient absolument rien parce que ça n'a aucun impact sur le vécu quotidien donc, de la population. Donc on aura donc des chiffres qui sont réduisants. Mais à la fin de la journée, nous nous trompons nous-mêmes parce que le diagnostic est faux, ne donne pas donc des résultats qu'il faudrait.
Merci beaucoup Noël. Alors Steve, nous venons en tout cas en croire, hein, parce qu'il nous reste encore une dizaine de minutes. On vient de comprendre qu'aujourd'hui, avec le taux de 10%, atteindre l'émergence, ce sera pratiquement impossible.
Il faut d'abord comprendre ceci. Premièrement, avec le taux de 10%, nous ne pouvons pas devenir pays émergent à l'horizon 2030. Parce que le 10%, si on l'atteint avec le taux de croissance démographique de 3,5%, on ne peut avoir que 1 300 $ par habitant à l'horizon 2030, qui est effectivement un statut de pays pauvre, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, d'aujourd'hui. Mais, deuxièmement, il faut aussi savoir que même le 10%, pour l'obtenir, ce n'est pas avec le politique public actuel tel que mis en place. Donc, avec le politique public actuel tel que mis en place, d'ailleurs, on a réduit le taux de croissance de 7,7 par rapport à la crise qu'il y a eu à la suite des cours du pétrole et du cuivre. Ça démontre que notre économie n'est pas assez efficace. Donc, même le 10% pour les obtenir, nous devons prendre de politiques publiques efficaces qui puissent effectivement faire en sorte que dans le 15 ans, qu'on maintienne les 10% pour espérer passer du statut d'un pays sous pauvre au statut d'un pays pauvre. Quelles sont ces réformes nécessaires? On a parlé du FMI et la Banque mondiale. On était en programme avant 2012 avec le FMI et la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas. Vous avez constaté que le taux d'échange est en train de bouger. Or, avec le FMI et la Banque mondiale, lorsque vous avez un déséquilibre, une instabilité due aux causes exogènes, le FMI intervient pour injecter le dollar afin qu'on ait un taux d'échange stable.
Mais ça veut dire pour dire que le changement du taux d'échange, ça pourrait s'étendre jusqu'à même avant la fin de l'année et atteindre la barre de 100.
Effectivement, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Notre pays ne produit pas de dollars. Et lorsque il y a un cours, la chute des cours du pétrole ou du cuivre, dû au problème de demande, eh bien, nous ne produisons pas de dollars. Nous aurons tendance à utiliser ces dollars à travers la banque centrale pour payer les gens. Et lorsque les devises deviennent rares, elles deviennent chères et nous serons dans cette difficulté-là de taux de change qui ne pourra qu'augmenter. Donc, dû au fait qu'on n'est pas en programme avec le FMI et la Banque mondiale. Mais aussi, le FMI et la Banque mondiale, c'est un coach qui peut nous permettre de mobiliser des ressources extérieures. Deuxièmement, c'est la libéralisation de l'économie, où les gouvernements aussi s'est désorienté parce que le gouvernement veut investir dans l'économie. Pendant que
Les nostalgiques auront exprimé une crainte dans la mesure où nous savons dans la Deuxième République les institutions des Bretton Woods avec la phénomène de rigueur et ça plongeait les pays. Ça a occasionné, c'est discutable sur les arbres des experts, ça a occasionné les pays et a mis les pays quand même dans une certaine difficulté que nous continuons à subir aujourd'hui.
Je suis complètement d'accord avec vous, mais je vais vous donner un exemple. En 2008-2009, un programme avec le FMI et la Banque mondiale, qui dit rigueur. Mais la rigueur ne veut pas dire ne payez pas vos gens. La rigueur veut tout simplement dire dépenser à la hauteur de vos recettes. Lorsque vous augmentez vos recettes, vous êtes capable d'augmenter le salaire pour les gens. Je vous donne un exemple. L'ancien Premier ministre Mouzito, il est en programme avec le FMI et la Banque mondiale, qui a d'ailleurs amené à la stabilité du cadre macroéconomique et à l'annulation de la dette extérieure. Mais vous vous souviendrez des bandits aux professeurs d'université qui avaient un salaire de 500 $, ils l'ont eu à 2000 $. Demander aux enseignants, certes, c'est insignifiant, ils avaient un salaire de 5 $ ou 10 $, il les a ramenés à 50 $. Demander aux magistrats qui étaient à 1000, il a encore recruté 3000, ils sont arrivés à 4000. Donc, dire que le FMI et la Banque mondiale refusent qu'on puisse augmenter les salaires de fonctionnaires, c'est une fausseté. Les FMI et la Banque mondiale démontrent qu'on dépense à la hauteur de nos moyens. Alors, si on sait mobiliser plus de ressources, on saura augmenter les salaires.
Alors, Réléna, c'est ça l'effort de prendre Michel à Matadi et Joséphine à Boston. Et puis, Réléna, à vous pour en conclure. Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, Félix.
Vous avez la parole, Michel.
Oui, moi je crois que je voudrais vous soutenir de ce que vous avez dit avant et parler de l'émergence. C'est de l'utopie. C'est construire un château en Espagne. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si vous calculez, 2030, c'est dans 14 ans, 2030. Maintenant, je crois la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que nous avons fait dans 15 ans? Qui doit nous assurer que dans les 14 années à venir, nous serons un pays émergent? c'est en Dieu nous voyons la vision. Vous savez, nous avons chanté ici les cinq chantiers. Nous sommes passés les cinq chantiers, nous sommes allés à la révolution de la modernité. Ça sera la même chanson pour l'émergence. Moi, je crois qu'il y a des indices qui doivent être pris en compte pour arriver à cette émergence-là. Vous savez, il y a des années, par exemple, des années 70, 80, il y a des produits où le Congo était première, classé mondialement. Prenons par exemple l'huile de palme. Le Congo était classé premièrement. Aujourd'hui, nous avons des richesses et nous ne savons même pas protéger. Frère, prenons l'exemple. Vous savez combien peut nous donner les constats dans notre pays? Nous avons les 70% de la production mondiale du constat dans le monde. Mondial alors, c'est le Congo. Donc si nous pouvons cadrer cette activité-là, ça peut nous donner beaucoup. Mais ça doit nous faire mal qu'il y a des autres. Prenons par exemple le Rwanda, qui n'en a pas. Il vient prendre chez nous, il devient producteur de polypierre. Vous voulez devenir émergent. Il y a des provinces où nos forêts, combien nos forêts peuvent nous donner? Il n'y a pas comme le Canada. Le Canada, la première richesse du Canada, c'est la forêt. Ils en font beaucoup. Nous avons la deuxième forêt. Mais aujourd'hui, il y a des zones où on vous dit, il y a des Chinois qui exploitent abusivement nos forêts.
Voilà, donc c'est difficile pour atteindre l'émergence.
Nous voulons devenir émergent. Et une autre chose, après l'émission d'aujourd'hui, sortez, parce que je suis économiste, je ne peux pas aller là-dessus. Après l'émission d'aujourd'hui, passez, faites une enquête.
Voilà, merci beaucoup Michel, on a plus assez de temps, on va prendre Joséphine rapidement également pour une minute. Joséphine, bonjour. Madame Joséphine, vous êtes à votre
bonjour Capi, hein, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. D'emblée, je vais dire ceci. Vous savez, j'avais déjà dit sur le plateau de Radio Capi avant, le Congo, s'il veut se développer, prenez le livre de... produits commerçables. C'est un petit livre qu'on a dans le... Oui, un petit livre de 5e des humanités commerciales. Vous savez, vous prenez seulement les livres là et vous allez voir, appliquer ces livres, vous allez voir que le Congo va se développer. Je vais dire ceci aussi. Le Congo néglige les ressources humaines. Or, le développement tourne tout autour de l'homme. Ça tourne tout autour de l'homme. Nous avons l'homme. L'homme là, nous avons.
C'est quand même important ce que vous dites. Bon, on n'a plus assez de temps. C'est une partie de lui. Merci beaucoup, Joséphine. Alors, Noël Chani, je crois qu'on va revenir sur vous très prochainement. Mais en une minute, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que vous avez dit au grand mot les grands remèdes. En une minute.
Vraiment, le grand remède, en réalité, ce que je veux dire, c'est que si le pays veut se développer, il faut qu'on fasse le diagnostic réel, identifier les problèmes auxquels nous faisons face, les défis de développement, et que nous puissions travailler sur chacun de ces problèmes en prenant conscience du fait que le Congo a échoué. Le modèle de développement que nous avons suivi jusqu'à présent, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, a échoué. Pourquoi nous avons échoué? Nous avons les problèmes, comme je l'ai dit, d'instabilité politique, des manques de légitimité de pouvoir, manque d'état de droit, manque d'infrastructure et mauvais environnement, donc des affaires. Donc le manque d'investissement dans les ressources humaines, comme la dame vient de le dire tout à l'heure. Donc nous devons prendre conscience donc de ces défis de développement et travailler sur chacun d'eux de façon à mettre notre pays sur la voie de développement économique et social soutenable. Si nous ne le faisons pas et nous continuons donc à faire la démagogie, nous perdons le temps de tout le monde. Le Congo a suffisamment de ressources naturelles pour pouvoir donc soutenir son développement économique et social et nous pouvons utiliser ces ressources-là au profit donc de tout le monde, mais en faisant les choses comme cela doit être fait normalement.
Merci beaucoup.
Dans les conditions actuelles,
c'est difficile. Merci beaucoup, Noël Chani, de nous avoir rejoint dans ces débats depuis les États-Unis. Vous êtes docteur en économie et aussi l'auteur d'un plan Marshall pour la RDC. Voilà, nous y reviendrons peut-être très prochainement. Nous terminons avec vous, Steve Kubota, cadre de Palou et puis économiste. Vous terminez dans cette émission. Vous terminez cette émission avec nous, avec les remèdes aussi proposés par la Rose de Tribune de Adolphe Mouzetou, restaurer à moyen terme les équilibres des comptes publics, par exemple.
Effectivement, on doit restaurer les équilibres, entre autres en étant en programme avec les FMI et la Banque mondiale, mais l'État doit construire l'économie nationale. Il faut qu'on construise ces bases-là, les infrastructures énergétiques, routières, portières, mais aussi il faudra nécessairement que l'État puisse, au fur et à mesure, se désengager de l'économie en laissant les entreprises publiques auprès de gens qui ont la nouvelle technologie et qui ont des ressources financières nécessaires quant à ceux. Mais les acquis politiques, la stabilité politique, le préalable politique doivent nécessairement être pris en compte, parce qu'une instabilité politique ne peut jamais amener à une prospérité économique. Donc l'émergence, au vrai sens du terme, l'émergence classique, reste une illusion. Et c'est un danger, c'est un vent qu'on vend au peuple, mais si l'on n'attire pas l'attention du peuple, le peuple risquerait en 2030 dessus de tout casser. Donc le peuple doit retenir que l'émergence telle qu'on en parle aujourd'hui, ça reste une illusion.
Avec une ouverture à la communauté internationale, le pays pourrait, dans les cas, mobiliser aisément les ressources pour les élections.
Effectivement, entre autres, parce qu'aujourd'hui c'est seulement 1 milliard de dollars, on peut les mobiliser, on pouvait les mobiliser si on avait une bonne gestion de l'État, une gouvernance politique et économique consciente, mais malheureusement, on n'en est pas là.
Merci beaucoup, Steve Kibota. Merci également à vous tous qui avez participé à ces débats. Nous terminons par ici avec Hippolyte Zikapanga qui a visité cette émission réalisée par Pierre Lamégi. Jérôme Guembo a eu le plaisir de coordonner et de présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebouzangoué. On se retrouve demain dans un autre numéro, mais n'oubliez pas le direct, c'est-à-dire nous vous invitons tous à ce direct que nous allons produire sur place à l'ISP Gombe pour clôturer le mois de la femme. Donc rendez-vous avec Okapi Service et parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bon suite au programme sur Radio Okapi.